Bienvenue sur la chaîne Ambiance Architecture Urbanité AAU.
Et tous, et puis il m'a semblé depuis hier soir que la ponctualité caractérisait ce colloque, voire l'avance de phase. En tout cas, je l'ai un peu appris à mes déboires hier soir, en ratant l'introduction de la conférence de Jean-Paul. Alors on enchaîne donc avec une parfaite ponctualité, en vous remerciant de votre présence et pour le second duo de débatteurs que nous avons imaginé pour ce colloque. Alors les duos de débatteurs, c'est pas une formule standardisée, hein, et on va avoir une formule qui sera très différente de la précédente, très probablement. Débattre et ne pas se battre, mais sûrement plutôt, en tout cas dans les 45 minutes qu'on va passer ensemble, hein, un moment de résonance entre les pensées et les travaux d'Axel Grégoire et Camille de Toledo. Je vais vous présenter un peu plus longuement dans une introduction qui n'est rien d'autre qu'une mise en jambe. On pourrait dire que par rapport à ce que nous avons discuté aussi tout à l'heure, on va peut-être être davantage maintenant dans une extension du domaine du bâti vers d'autres éléments et notamment vers le vivant. Et puis, probablement aussi que les énigmes qu'on va pouvoir soulever seront beaucoup autour de la question de la représentation, des énigmes représentationnelles. On peut toujours se rappeler que représenter, c'est présenter ce qui n'est pas là, ce qui n'est plus là. Et c'est quand même l'un des grands défis, l'un des grands problèmes pour les enquêteurs que nous sommes, la plupart, de savoir comment on peut s'y prendre et pourquoi. Alors, les premières questions qu'on avait pu échanger, elles tournaient autour de cette question des approches sensibles, qui sont un des marqueurs de notre laboratoire, et comment ces approches sensibles permettent de questionner les devenirs possibles du territoire, permettent d'autres manières de les projeter, on en a un peu discuté tout à l'heure, et puis comment la prise en considération des mutations, et notamment des mutations écologiques, déplace, dessine de nouvelles perspectives de travail pour les sciences sociales elles-mêmes. Alors, hier soir, dans sa conférence introductive, Jean-Paul nous a mis sur la voie de peut-être ne plus faire de la recherche comme avant, et notamment, l'une des pistes en tout cas que suggère Jean-Paul, c'est de parvenir à raffiner notre sensibilité aux différences. Et probablement qu'on ne peut plus le faire, on ne peut pas faire ça sans remettre en cause des manières de faire de la science. On pourrait aussi se dire que l'éthique environnementale dans la recherche commence à avoir des effets fort intéressants, sans questionner notre décorum, on en parlait un petit peu en aparté, le décorum universitaire, sans faire bouger nos manières d'évaluer le travail scientifique, mais aussi, bien évidemment, nos manières d'écrire, nos manières de parler. Hier, Jean-Paul nous a aussi rappelé ce travail en cours au sein d'un projet de recherche de cet enjeu d'oraliser des micro-récits qui caractérise le chantier imprégnation de l'ANR Sensibilia, comprenne qui peut, et puis de construire des dispositifs, peut-être. Alors, dans ces dispositifs, puisqu'on parle d'autres manières de faire la science, c'est les recherches participatives, c'est le théâtre forum, ce sont des procès, ce sont des auditions. En tout cas, tout ça relève de ces tentatives de faire entrer les sciences en démocratie. Souvenons-nous que c'était le sous-titre de « Politique de la nature » de Bruno Latour, il y a un peu plus de 20 ans, et qui, justement, était une interrogation de nos canaux, de nos vecteurs d'expression, et notamment de ces canaux et vecteurs particuliers que sont les disciplines, et surtout de l'enjeu de leur association entre elles. Alors, vous l'avez compris, la question ici ne va pas être celle de la vulgarisation des travaux scientifiques. Traduction serait déjà un terme meilleur, mais pas complètement satisfaisant. Comment exprime-t-on autrement? Comment travaille-t-on autrement? Comment est-ce qu'on peut rendre visible ou tangible une condition qu'on peut s'accorder à qualifier d'anthropocène? Alors, il ne s'agit pas tant de sortir du langage, et peut-être que, comme moi, vous avez été intrigué par ce colloque à venir d'un laboratoire qui propose de chercher hors des mots. Il ne s'agit donc pas de sortir du langage, mais bien de le travailler. Alors, quels sont nos bagages? Quels sont nos équipages pour les minutes qui viennent? Quelques mots pour parler de vos travaux sur lesquels on va plutôt s'arrêter. Alors, Axel, tu es architecte de formation littéraire aussi, j'ai envie de dire. Tu as été chef de projet dans une agence d'urbanisme et de paysage, BASE. Aujourd'hui, des travaux notamment partagés avec Alexandra Arène. Et puis, vous deux, avec Frédéric Aritoiti, vous avez produit ce travail collectif important et qui, à mon avis, concerne beaucoup des chercheurs qui sont dans la salle ce matin. Et qui est Terraforma, ce manuel de cartographie potentielle. Je pense qu'on reviendra tout à l'heure sur cet enjeu du potentiel, qui part de cette idée que la crise environnementale est aussi une crise des représentations. Et que donc il faut rénover un certain nombre de ces représentations, et notamment rénover des cosmogrammes. Alors, ce travail, je ne le résume pas ici, mais je pense qu'on est plusieurs à l'avoir parcouru, lu, utilisé peut-être. C'est bien d'avoir des boîtes à outils. Je voulais juste rappeler que cette entreprise de revisualisation des mondes, vous la jouez par différents modèles, par des chapitres qui sont autant de boussoles pour des cartographes d'un nouveau genre. Se repérer dans un espace plein plutôt que vide. Positionner, représenter le monde à partir de points de vie et non pas de points de vue. Tracer des terrains de vie, délimiter, non pas dans le sens du découpage, mais de la liaison, ou de la reliance, on pourrait le dire. Mesurer, mais mesurer, ça n'est pas seulement des métriques, mais ce sont des espaces-temps polyphoniques. Subsister, habiter, et peut-être habiter les ruines, et c'est un petit clin d'œil avec les travaux très importants pour de nombreux d'entre nous d'Anatsing. Camille, j'ai envie de dire que Camille de Toledo, tu es écrivain, avec notamment différents ouvrages qui sont parus aux éditions Verdier et récemment une histoire du vertige. Je pense ici soucieux des acteurs collectifs, des auteurs collectifs. Et à ce titre, on va plutôt se pencher tout à l'heure sur les enjeux de ces auditions. J'en ai parlé tout à l'heure. Audition du Parlement de Loire, mise en récit dans un travail qui est disponible à Manuela Édition. Et puis prochainement, un travail qui commence à l'IEA de Nantes sur une internationale des rivières. Et j'aimerais qu'on en reparle tout à l'heure. En tout cas, dans cet ouvrage qui a été coécrit avec Le Peuple qui manque, Alyosha Imov, Kantuta Kiros, qui s'appelle Les potentiels du temps, il y a vraiment cet enjeu de croiser recherche, art, politique, et de mener une bataille pour reconstruire des futurs, ce qui renvoie aussi à la conclusion que Qu'est-ce qui sait Jean-Paul hier est reprise par Rachel dans cet enjeu des perspectives, disons, positives, quoi. Voilà, alors Le fleuve qui voulait écrire, c'est une restitution des auditions du Parlement de Loire. Ça a commencé fin 2019, il me semble. Et c'est bien l'enjeu de mobiliser une variété de savoirs. Alors, il y a l'écopsychologie, il y a la bioacoustique, des savoirs du lien, des attachements sensibles. Et donc, c'est un travail d'extension des scènes du langage qui s'est joué dans ce travail. Et l'horizon, peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure, en tout cas, moi, je trouve que c'est une promesse, en fait, très intéressante de l'horizon d'un service public de l'imaginaire. Peut-être qu'on pourra y revenir. En tout cas, je trouve que c'est très motivant. Alors, comment ça va se passer ce temps? On a plutôt convenu que chacun prenait un moment d'installation d'un propos, mais de 10 minutes, un quart d'heure environ. Axel commence, Camille ensuite, en résonance, je le disais. Et puis, on gardera, comme tout à l'heure, hein, pour le premier duo, un temps de 10 minutes, un quart d'heure d'échange, évidemment, avec la salle derrière. Voilà, c'était ma manière de lancer un petit peu ce duo. Et puis, merci encore d'avoir accepté de venir croiser le fer avec la grande communauté AAU.
Merci pour cette introduction et merci pour l'invitation. L'idée, oui, c'est de présenter le projet Terraforma, mais aussi ses suites et de voir justement comment cet élan a pris différentes directions. Donc le projet Terraforma, comme le disait Laurent, il vient d'une d'une insatisfaction dans les projets de conception qu'on rencontrait avec Alexandra en agence en tant que paysagiste ou en tout cas en tant qu'architecte qui travaille sur des questions de paysage, où on était appelé sur des sites qui pourraient rentrer dans l'atlas des paysages fantômes d'Anna Tsing, c'est-à-dire des sites qui étaient pollués ou en tout cas qui étaient abîmés. Avec ce méta-récit qui était que le paysage était l'endroit de la l'outil de la réparation et que c'était à cet endroit qu'on devait agir. Et en fait, on s'est rendu compte que peut-être que c'était à l'endroit de la redescription de ces sites qu'il fallait travailler, notamment en inventant des nouveaux outils. Et c'est là que notre projet, qui était au départ un projet de soirée, de week-end, un projet secret, a pris un peu d'autres dimensions, parce qu'il a rencontré vraiment les théories de l'Anthropocène, notamment avec la rencontre avec Bruno Latour, et avec la rencontre avec Frédéric Atoati, s'est inscrit dans une perspective plus d'histoire des sciences et de réflexion sur ce que pouvaient être ces cartes et comme nouveau cosmogramme, en tout cas qu'est-ce qu'il disait de la Terre et comment on s'y situe. Et il était important pour nous de travailler sur des outils et pas un atlas, parce que c'était notre façon de nous rééquiper techniquement et conceptuellement pour faire face à une urgence qui était d'abord celle de la redescription pour aller vers peut-être une performativité des images, mais en tout cas des possibilités d'action. Et comme le disait Laurent, du coup, ce projet il s'est construit autour de différentes thématiques qui étaient des problématiques qu'on avait rencontrées dans les projets. Donc la question du sol qui est toujours regardée depuis le foncier et pas dans les profondeurs. Et quand on parle de pollution ou quand même on parle de projet de plantation, ça pose question, même si la coupe existe. La question de la frontière. La question de l'espace-temps et de la mémoire. Et donc, ce projet il s'est construit aussi avec une transparence de construction des outils de cartographie. C'est-à-dire, l'idée, c'était de rendre ces rapports de fabrication disponibles pour pouvoir discuter, comme quand on fait une hypothèse scientifique, en fait, de chacun des paramètres pour dire ça ouvre à cette question, mais peut-être qu'il faut la reposer autrement. Donc, on était vraiment dans l'idée de fabriquer des outils et de développer des cartes qui partaient des questions et qui en ouvraient d'autres. Et en... Pardon, j'ai été un peu vite. Et en fait, ce qui nous a aussi beaucoup intéressés dans ce projet, c'est comment ça nous a permis de lancer des invitations à différentes disciplines auxquelles on n'a pas pensé au moment de la conception, notamment qui a reçu ces outils de manière très forte, c'est les sciences de la Terre. Et c'est aussi le travail que développe Alexandra, particulièrement avec les observatoires de la zone critique. Et ce qui nous a intéressé aussi, c'est de revenir à... Enfin, ce qui nous rendait libre, c'était finalement de venir de la conception et pas de la géographie, c'est-à-dire d'utiliser la cartographie comme un moyen de développer des récits, penser un futur, une prospective, et finalement de manière un peu bricolée et moins normée que si on venait de la discipline de géographie. Et de se dire que chacune de nos cartes parlait d'un cosmos, finalement d'un rapport à la Terre, même si l'hygiène ne semble pas parler d'un rapport à la Terre, il parle d'un rapport à la Terre, d'un rapport à la métrique, d'un rapport à la mathématique, de la question de l'occupation des sols et de comment on s'y repère avec un nord, un sud. Et finalement, c'était une façon de repenser ces cartes, de se réouvrir à ce dialogue de qu'est-ce qu'on raconte de cette Terre anthropocène. Ensuite, qu'est-ce qui est très intéressant dans les cartes, c'est la capacité de pouvoir faire exister dans l'espace du dessin différentes voies. Pourquoi pas des voies en conflit, pourquoi pas des voies contradictoires, par ce processus de traduction ou de médiation dans lequel peut ce rôle que peut prendre le cartographe. Donc pour ça, on s'était beaucoup inspiré des cartes, des figures accordées justement qui étaient faites, qui portent la subjectivité de l'artiste qui les a dessinées, mais qui étaient faites quand même comme des pièces légales pour régler des disputes. Et enfin, qu'est-ce qui nous intéressait beaucoup dans les cartes, c'était cette capacité à offrir différentes lentilles, différentes façons de regarder les territoires, les forces en présence, et du coup qui pose la question des réglages de ces lentilles et la possibilité d'en changer aussi, c'est-à-dire de pouvoir multiplier les focales selon les questions et selon les acteurs en présence. Et le premier grand geste de Terraforma, ça a été de justement procéder à ce retournement, c'est-à-dire se dire comment on regarde avec cette première anamorphose, que je vais décrire rapidement, mais c'est vraiment un geste fondateur qui nous a aussi permis de rentrer dans un processus de désorientation. Une désorientation certes vertigineuse parce qu'elle remet les codes de la représentation en jeu, mais très fructueuse en termes de questionnement et de possibilité de repositionnement et d'ouverture de pistes. Donc là, vous voyez une carte où justement on est passé de... Pardon, j'ai du mal avec la télécommande, je ne suis pas habituée. On est passé d'un humain à la surface du globe qui se retrouve dans le globe, donc pas exactement comme le géorama puisqu'on reste extérieur, mais qui se retrouve enfermé, confiné dans l'atmosphère qui devient centrale et toutes les couches de sol se déploient jusqu'à être enfermées par ce noyau. Alors ce que ça fait, c'est voilà, ce déplacement. Mais ce que ça fait, c'est la possibilité aussi de comprendre comment agissent les cycles, les sédiments, les particules, comprendre qu'il n'y a pas un en dehors du monde, c'est-à-dire que ce qui est rejeté nous revient en effet boomerang, et penser l'espace à partir de son continuum à la fois en étendue, mais aussi en profondeur et en verticalité. Alors pourquoi j'ai un peu détaillé cette carte ? C'est parce que ce geste de renversement, il est conceptuellement assez, il est comme une ligne directrice dans tout l'ouvrage, et c'est autour de ce modèle qu'on a beaucoup travaillé depuis la publication de Terraforma, notamment dans les écoles d'architecture, mais pas seulement, aussi avec parfois des ingénieurs, avec une grande ouverture de discipline et même d'âge, puisqu'on a travaillé aussi avec des enfants, enfin voir comment chacun redécrit son cosmogramme. Et ce que ça donne à voir maintenant, c'est une centaine de dessins comme ça qui sont comme voilà, des photographies d'un territoire à partir d'une lentille retravaillée. Et ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est de voir justement la multiplication des mondes et la possibilité de penser la carte comme un commutateur, une possibilité de passer d'un dessin à l'autre, d'une vision à l'autre. Et je trouve qu'à cet endroit-là, l'ouvrage de Pierre Déléage, L'autre mental, qui compare l'anthropologue et l'écrivain de science-fiction, qui sont tous deux capables de passer d'un monde à l'autre, est très utile parce que finalement, grâce à la cartographie, on peut justement essayer de naviguer dans ce qu'on pourrait appeler le planétarium de Bruno Latour quand on pense à la description de Gaïa et du Thérèse, mais aussi le plurivers de Escobar, par exemple. Donc c'est intéressant de se dire que c'est à cet endroit de redéfinition de la carte et à l'endroit des cosmos qu'on peut se balader. Et l'intérêt aussi, c'est de se dire qu'est-ce que ça nous fait rencontrer, parce que le point de départ, c'était toujours la question de la description du vivant. Donc ça, c'est un exemple à partir du troisième modèle qui est le point de vie. Donc Emmanuel Ecoce, avec son concept de point de vie, nous a aidé à penser justement ce passage du point de vue qui est extérieur et qui des fois est invisibilisé dans la carte, au point de vie qui est un point de vie atterri, incarné, qui permet la non-hiérarchisation entre les êtres et qui permet de développer l'espace autour de ces points de vie comme un continuum, c'est-à-dire on n'est plus dans des espaces topographiques, on n'a plus ce repère, on n'est que dans un rapport de points de vie et dans l'interaction de ces points de vie fait espace en fait. Et alors du coup, on s'est intéressé d'abord à ça de manière partagée en essayant de comprendre comment un paysage pouvait se développer et ensuite à penser comment un point de vie était attaché à son territoire. Et là, notamment un arbre particulier, un épicéa dans un observatoire de la zone critique qui est décrit, dessiné à partir de données scientifiques qui étaient récoltées par les instruments, mais aussi à partir des récits que faisaient les gens qui pratiquaient ce territoire autour. Et en fait, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que finalement, la rencontre avec le vivant, c'est comme le décrit Abbott dans la petite nouvelle Flatland, d'un carré qui est dans un monde 2D qui un jour rencontre une sphère. C'est l'ouverture à une dimension qui est presque incommensurable pour l'œil humain ou pour la pensée humaine, c'est-à-dire qu'elle a justement une potentialité dans sa capacité à un peu être dans la démesure de nos cadres. Et c'est un peu dans cette aventure qu'on s'est plongé avec ce projet et avec ces descriptions cartographiques, et notamment pour rapprocher des concepts qui peuvent être celui de l'arbre-monde. Voilà comment, en fait, là, le territoire qui est le cercle le plus extérieur, l'arbre qui est le cercle le plus extérieur vient manger le monde, c'est-à-dire que si on coupe l'arbre, cette carte n'existe plus puisque la description de l'espace est faite à partir de l'arbre. Alors, on peut se dire que ces dessins, ils sont compliqués à lire, en effet, parce qu'on n'a pas été, et ça demande un temps d'apprentissage. C'est des outils d'analyse qui peuvent être compris comme des outils techniques, c'est-à-dire que quand j'ai bien aimé cette comparaison qu'a fait quelqu'un, un designer, qui disait que quand dans un atelier on reçoit une machine CNC ou quelque chose, on se forme à la machine, et que là, quelque part, c'est un autre outil et qu'il faut s'y former un peu, peut-être, si ça nous intéresse. En tout cas, ça demande un peu une sorte d'acclimatation à ces outils, mais l'expérience de ces orientations fait partie aussi justement de cette expérience de pensée. Donc, c'est important de la garder comme étant un premier pas pour rentrer dans ces cartes. Les deux cartes que j'ai montrées, c'est des prototypes pas la deuxième parce qu'elle vient d'une enquête, mais la première du sol, c'est un prototype, c'était dans le livre. Et aujourd'hui, ces outils prototypales, ils sont confrontés à des réalités d'expérience, des réalités de terrain, des réalités de questionnement, et notamment autour de la question du sol et du sol dans le bassin parisien, avec ce projet de carte cosmopolitique qui était porté par le Centre de politique de la Terre dans lequel on a travaillé avec Alexandra Arène, autour de qu'est-ce que la vision du sol, enfin en tout cas autour de différentes pratiques, que ça soit par exemple un géochimiste ou un exploitant de carrière pour produire pour extraire du gypse, pour produire des placos. Voilà, on est dans deux différentes conceptions du sol, même lecture, et on a essayé de faire se rencontrer ces différentes visions. Donc en fait, la carte, elle nous sert aussi, peut-être comme un parlement, peut-être comme une assemblée, à rencontrer des voix qui n'ont pas les mêmes normes, n'ont pas les mêmes standards, n'ont pas le même langage. Et c'est là où il y a un déplacement, finalement. Tout à l'heure, on parlait de la concertation qui pouvait être décevante. Je pense aussi que ce projet, il est né d'une déception de concertation, et qu'on a pensé nos outils comme étant des possibilités de faire entrer justement différentes voies, notamment autour de... Donc là, par exemple, c'est... le sol en bas, le sol de l'archéologue, qui n'est pas le même que le sol des sciences de la Terre, et qui vont venir se discuter autour de ces cartes qui deviennent des objets d'atelier, des objets sur lesquels il faut revenir, c'est-à-dire que chacune des cartes est un leg pour des futures recherches ou des futures rencontres. Et là, c'était un des exemples dans le cadre de la BAP en 2022 à Versailles, et qui parlait de la question des sols à défendre. C'était volontairement un peu provocateur vu qui était autour de cette table, mais chacun devait se saisir d'un sol à défendre et discuter en groupe, et ça remettait en question les entretiens ou les visions qui avaient été préalablement récoltées pour construire cette carte. Donc voilà, c'est aussi toujours l'idée d'un dialogue, c'est-à-dire que de ces discussions sur les sols à défendre sont venues d'autres cartes, d'autres perspectives sur la question, par exemple, de la connaissance concertée et une mise en réseau entre l'Institut Paris Région, les géochimistes et les géologues qui travaillent pour les exploitants de carrière. Voilà, l'idée, c'est de créer, en fait, de générer des dialogues, mais aussi des possibilités d'outils ou de corrélations, de nouvelles pratiques autour des questions qui sont soulevées. D'autres projets, et je vais certainement laisser la parole après, il y a aussi tout un pan en fait du chantier Terraforma qui est de donner la possibilité à chacun de décrire son territoire. C'est-à-dire de penser que la carte, c'est aussi un outil de d'empowerment. Alors, c'est un mot anglais, mais ça dit bien ce que c'est. C'est-à-dire que on prend du pouvoir à pouvoir décrire mieux son territoire et du coup comprendre aussi comment on s'inscrit dans les descriptions qui nous cadrent. Et notamment autour des sols du Forez et de la question de l'agriculture et plus largement de l'alimentation, on a commencé un travail avec le château du Coutelas qui réunissait des habitants, mais aussi qui m'a permis d'aller enquêter auprès des agriculteurs dans des exploitations autour de cette question des sols. Et là, la carte, finalement, le carottage qu'on a pu faire de manière très classique et géologique à d'autres endroits, c'est finalement devenu un carottage métaphorique pour mettre en scène, pour comprendre qu'il y avait des récits du sol qui étaient différents selon qui venait le ponctionner. Et ça, c'est un travail en cours sur la façon dont, justement, tous ces carottages et ces récits de sol autour d'une pratique qui est finalement l'exploitation de la terre, l'exploitation en tout cas, plutôt les questions agricoles, le fait de faire pousser quelque chose, et pourquoi, et comment, et avec quelle relation, et avec qui. Là commence à se mettre un peu toutes ces notions se commencent à se mettre un peu sur la table qui est finalement la carte pour pouvoir ouvrir des débats autour par exemple d'une justice alimentaire à l'échelle locale ou ce genre de grandes perspectives qui sont liées à l'action politique. Et juste avant de conclure, en fait, là, j'ai montré des projets dans lesquels les outils étaient vraiment au cœur de la démarche de recherche. Mais parfois, en fait, il y a aussi des effets de traduction de concepts. Par exemple, là, autour de la question de la comparaison du néolithique et l'anthropocène, autour de Jean-Pierre Desmoules et Michel Lussault, où là, la carte, elle est plus une interprétation ou une réflexivité, c'est-à-dire qu'on dessine un concept qui nous a été expliqué et finalement on crée un dialogue entre chercheurs et cartographes finalement c'est presque comme le dessin scientifique, mais on peut aller jusqu'à penser le dessin comme une voix, c'est-à-dire comme une voix dans une table ronde où finalement le dessin est là comme une tout à l'heure on parlait de mots ou de hors les mots, c'est-à-dire que là la voix du dessin est mise en parallèle avec des voix conventionnelles de chercheurs. Et ça, je trouve ça très intéressant de penser que... c'est un peu quelque chose sur lequel je travaille et presque milite, parce que ce n'est pas évident dans toutes les disciplines académiques, de penser le dessin comme étant une voie de recherche, en tout cas un mode de fabrication de la connaissance. Et là, c'est un peu abrupt pour... On peut éteindre, je ne sais pas comment on éteint, mais on va laisser ça, hop, par exemple, ou avant. En tout cas, juste pour peut-être faire le lien avec Camille, j'avais une citation que je n'ai pas lue, mais au moment de l'écriture de Terraforma, on était en train de lire les potentiels du temps, et en tout cas, cette introduction des potentiels des temps nous a aussi donné l'élan pour justement construire cette boîte à outils et être dans cette idée qu'on pouvait chercher dans le dessin des formes opératoires, d'aller chercher une performativité, des choses qu'on avait en tête. Et cette introduction, elle disait « nous partons des villes, nous partons », mais il y avait aussi « nous partons de ceux qui peuvent transformer l'esprit et le corps, nous partons de l'humain et de la grâce animale, des espèces dont nous ne sommes qu'une forme fragile, nous partons d'un plus vaste parlement, d'un plus vaste espoir ». Et nous cherchons à précipiter ce départ et à nous départir. Et finalement, c'était pour nous une sorte de tremplin, comme la rencontre avec la pensée de Bruno Latour, qui nous a permis de donner corps à cette intuition et à ce désir de se rééquiper pour mieux atterrir finalement.
Bien, bonjour. Merci Axel. Oui, ben, en fait, autant repartir d'ailleurs de tes cartes, mais je me disais, c'est bien d'éteindre un peu l'écran. Moi, je suis plus effectivement du côté de l'écrit et de la parole. Après, il y a du dessin chez moi, et ça dessine, mais ça dessine avec d'autres. Vous dire ici que donc moi je suis, c'est vrai, tu l'as dit, Laurent, majoritairement écrivain, mais j'ai des recherches en parallèle, voilà, qui se sont toujours fait un peu en marge, à un moment donné, dans l'université. Et notamment, ça commence, on va dire, autour de l'éco-anxiété d'un père qui, dès 1972, il faisait ses études aux États-Unis, lit le rapport Meadows. Et à cette époque-là, aux États-Unis, on parlait beaucoup d'un livre de Rachel Carson qui était « Printemps silencieux, Silent Spring ». Et donc, il a porté toute sa vie cette histoire-là. Et donc, c'est pas rien, quand on est enfant, de grandir avec cette éco-anxiété, c'est-à-dire que ce souci de ce qu'il advient de la Terre était présent dès l'enfance, fortement, comme un bain, une imprégnation très forte, à tel point, je le dis parfois en souriant, qu'il m'expliquait, donc toujours ce père, j'étais une exception à sa résolution suite à la lecture du rapport Meadows, puisque le rapport Meadows conseillait d'avoir moins d'enfants, et donc je tenais ma vie en quelque sorte à une sorte de principe non maintenu. Voilà. Donc c'est cette sorte de vie d'exception qui se présente à vous aujourd'hui. J'étais soucieux de ça, j'ai fait moi des études de lettres, de sciences politiques, je voyais que Sciences Po était là, j'ai fait Sciences Po et très réfractaire aux catégories de la pensée, ce qui fait que je suis sorti d'ailleurs de l'oral de Sciences Po avec une très 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 mauvaise note, parce que je m'étais opposé notamment à un prof qui maintenait que les frontières disparaissaient, et que les diasporas allaient l'emporter. J'avais pressenti que ça n'allait pas être le cas. Et que, voilà. Donc j'étais réfractaire à ces catégories de la pensée, mais je les ai quand même intégrées. Donc je vois un peu comment le monde est construit, et notamment en sciences politiques, à partir de cette catégorie. J'ai également fait des études de droit, et j'ai fait un temps à la London School of Economics. Donc pareil, le vocabulaire de l'économie politique est passé, mais passé par le corps. Pendant quelques années, je pense que vous comprendrez peut-être pourquoi j'ai voulu effacer ce vocabulaire de mon esprit. Et c'est pour ça que j'ai choisi plutôt la voie littéraire, parce que c'était pour moi précisément une possibilité de répondre par le langage. Et puis, progressivement, ça a fait retour, ce langage de l'économie politique et du droit et de la science politique. Pourquoi ? Eh bien, à la faveur d'un certain nombre d'événements juridiques qui sont un peu passés sous les radars pour, disons, le grand public. Mais c'est par exemple en 2008 la constitution équatorienne qui s'inspire de cosmovision autochtone, indigène, amérindienne, et qui donne le statut de sujet de droit à la terre-mère, qui est nommée dans la constitution équatorienne de 2008 Pachamama. À ce moment-là, je travaille moi sur la question du langage et de la traduction. Et la connexion se fait en 2008 également avec Bruno Latour, que nous invitons à un colloque à l'INHA sur la traduction. Et il s'agissait alors, pour ce colloque, d'un travail sur la traduction dans le cadre de traduction interhumaine. Et évidemment, on avait invité Bruno Latour pour étendre le domaine du traduire. Tu parlais d'étendre le domaine du bâti. Il y avait étendre le domaine du traduire à ce qui se présente à nous apparemment sans langage. Pourquoi ? Parce que si on donne le statut de sujet à la terre-mère, il faut alors se poser la question de qui parle, comment ça parle, depuis quel lieu, depuis quel cœur, au sens polyphonique du terme, etc. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait des études de littérature, je suis passé par la question des focalisations en littérature, et notamment, disons, un peu du travers de la prosopopée, où on se mettait par le passé un peu trop facilement dans le corps d'autrui ou de d'autres formes de vie ou de non-vie, du type « et si j'étais la pierre ?»« Et si j'étais le vent ?» Et si j'étais, et si j'étais, et si j'étais ceci et cela. Et comme nous sommes dans cette époque douloureuse de l'Anthropocène, où donc la Terre est blessée, et que par ailleurs il y a ce grand travail d'enquête des scientifiques, des sciences de la vie et des sciences de la Terre qui renouvellent les cadres de la pensée, l'enjeu pour l'écriture de ces nouveaux sujets qui émergent, je parle parfois de droits sociaux des sujets non humains, eh bien, en fait, ça devient un peu plus douloureux que ce simple geste un peu comme ça, magique de la prosopopée qui dit tiens, et si ? Il faut passer par l'enquête, par le terrain, par des cartographies ou des travaux qui précèdent les cartes que vous a présentées Axel pour être au plus juste. On dit parfois en traduction que traduttore traditore, c'est-à-dire la traduction est une trahison. Comme la représentation, où toi tu disais représenter, c'est toujours en quelque sorte parler de ce qui n'est pas ou qui échappe à la représentation, donc les absents. Donc la question est comment est-ce que l'on trahit moins ? Comment est-ce que l'on traduit mieux ? Alors donc voilà, moi je pars de toutes ces questions et je commence à travailler sur ça, la traduction d'entité non humaine, d'entité naturelle non humaine, pour essayer de construire cette focale-là, d'ajouter cette focale à la focale de tous les points de vue qui déjà se combattent, s'entrelacent, se complètent dans l'espace public. Et j'ai donc écrit une performance qui s'appelait Les témoins du futur, où j'imagine un monde dans un futur proche où nos systèmes juridiques ont évolué et où ce que j'ai appelé le soulèvement légal de la Terre a fait son chemin, ce qu'on appelle aussi parfois le tournant des droits de la nature. Alors je fais une petite parenthèse ici, c'est que le tournant des droits de la nature, donc c'est quelques dates, 2008 la constitution d'Équateur, 2016 une décision de la Cour en Colombie qui donne le statut de sujet à la rivière Atrato. C'est une loi en Nouvelle-Zélande en 2017 qui donne le statut de sujet à une rivière qui s'appelle la Whanganui, quelle que soit la façon dont on l'écrit, puisque la prononciation en langue maori est autre. Et progressivement, en fait, l'énumération jusqu'à une décision récente du Parlement espagnol qui a donné le statut de sujet à une zone humide qui s'appelle Mar Menor l'année dernière. Et donc, en fait, moi qui suis passé par les catégories du droit, comme je disais, de l'économie, mais aussi de la philosophie, pour moi, je le vois très vite, ce tournant des droits de la nature, comme un bouleversement profond de nos catégories d'organisation, de gouvernance, et également comme un chamboulement profond de nos ontologies ou de l'ontologie classique du droit. Alors, l'ontologie classique du droit qui reprend l'ontologie, disons, une ontologie plus ou moins issu de la philosophie des modernes, qui est d'un côté, on a un monde où il y a des objets, et de l'autre côté, on a un monde où il y a des sujets. Et ça, en droit, tout étudiant en droit passe par là, on dit, ça s'appelle la summa divisio, donc la division fondamentale, et ça est en train, en quelque sorte, de se troubler. Voilà, il y a une zone trouble, et maintenant, on voit des entités considérées comme des objets qui passe dans la colonne des sujets sous l'impulsion d'un certain nombre de dérèglements terrestres. Et donc on a cette situation nouvelle où une tempête a un effet social, un ouragan a un effet social, et donc il y a cette grande discussion sur l'agentivité d'entités qui sont non-verbales, qui sont non-alphabétiques ou non-idéogrammatiques, etc. Et donc on a un monde à plus de voix, plus de focales, plus de points de vie, plus de points de vue. Donc on a un monde plus complexe. Et lorsque, en 2019, l'agence, qui est une agence qui est basée à Tours, qui s'appelle le Pôle Art et Urbanisme, qui cherche à mettre en relation des artistes et des territoires, et donc là c'était à travers Maud Le Floch et Pascal Ferren, lorsque cette agence cherche un artiste, chercheur associé, pour réfléchir sur l'entité Loire, ils font appel à moi, et je propose de mener un projet d'audition comme des auditions législatives. Donc moi, j'ai une pratique, ce que j'appelle des institutions potentielles. C'est-à-dire, je me dis, et si nous pouvions changer les institutions, à quoi elles ressembleraient ? Donc ça engage des questions de dessin. Et là, je leur propose de suivre des auditions en pleine période d'ailleurs de Covid, finalement. Donc ça a été quelque chose d'assez tempétueux. Mais au final, qui s'est formidablement passé. Et donc, il y a eu une série d'auditions où il y avait une commission qui avait été désignée notamment et constituée par Pascal Ferren. Et on a auditionné un certain nombre de chercheurs de différents terrains. C'est là qu'entre la transdisciplinarité profonde, parce qu'il y a des questions d'anthropologie, il y a des questions de droit, il y a des questions de sciences politiques, de politique, c'est des questions évidemment plus affectives, avec des rituels d'attachement ou autres, d'écoute. Donc tu parlais de l'éco-psychologie. Enfin, donc il fallait en fait mettre ensemble, et je dirais pas ensemble parce qu'en fait ça s'accorde très peu, mais en mouvement ces différentes approches pour que ça puisse converger vers une réponse à cette question: faut-il donner la personnalité juridique à l'entité Loire, et à travers la Loire évidemment, faut-il aller vers cette nouvelle focalisation qui remette totalement en cause le cadre naturaliste posé par Descola, dont on sait d'ailleurs qu'il n'a jamais été vraiment, enfin qu'il a été posé théoriquement là, mais qu'il n'est jamais vraiment rentré dans les corps. Beaucoup de gens encore qui se rapportent au monde d'une manière plus ou moins animiste, plus ou moins totémique. Bon. Mais en tout cas, ça chamboule beaucoup, et donc ça a été cette première, c'était ma deuxième narration instituante. La première concernait la question de la traduction. Celle-là, donc, sur les droits de la nature, et j'en démarre une troisième qui s'appelle « Vers une internationale des rivières et autres éléments de la nature », qui va essayer de réfléchir à quelle économie politique nouvelle pourrait naître d'un monde où nous donnons le statut de sujet à des processus naturels et à des entités non humaines, en enjambant quasi la question de qui parlera pour. Mais je pourrais, si ça vous intéresse, vous dire pourquoi je l'enjambe, mais parce que pour moi, d'une certaine façon, c'est déjà une affaire réglée, alors que beaucoup sont encore à se heurter à cette question, parce que ça heurte de penser que des humains vont pouvoir dire la parole du fleuve ou de la rivière, etc. Et donc voilà où nous en sommes. Laurent, toi, tu es au courant de ce projet à Nantes, puisque c'est ce qui est porté par l'Institut d'études avancées. Ça prend la forme d'une narration instituante. Il y aura des auditions publiques. Il y aura un temps de travail et de recherche entre les auditions. Et je propose de m'arrêter là pour laisser un temps à tes questions, à la discussion avec Axel, etc. Mais j'espère que vous aurez vu dans ce que je vous ai dit pourquoi les représentations et ces changements cartographiques produit par Axel, Alexandra et Frédéric Aïtouati, avec lesquels d'ailleurs j'ai travaillé là depuis 2 ans sur une pièce de théâtre, et dont la question, Frédéric, est: qu'est-ce qui se passe sur une scène de théâtre si la Terre entre sur scène? Parmi beaucoup d'autres questions, c'est une de ces questions. Bien, j'espère que vous aurez compris pourquoi on est là ensemble et pourquoi on est réunis autour de ces questions des perspectives multiples.
Merci à tous les deux. Alors, une ou deux pensées, rebonds, mais ensuite, évidemment, on ouvre à la salle, d'autant que si on restait strictement sur la ponctualité, il faudrait bientôt fermer le banc, et en fait, on a un petit peu de temps. En tout cas, il me semble qu'on peut le prendre pour encore un quart d'heure. Moi, je voulais peut-être juste souligner cet enjeu de chercher des formes, alors cartographiques, histoire des possibles, témoin des futurs, tu l'évoquais tout à l'heure, c'est en fait... Comment on ouvre à nouveau cette question des représentations, comment on les déplie pour faire exister différentes voix, comment on ajoute une focale, et comment ce travail de recherche, en fait, hein, d'autres formes, c'est l'histoire des possibles aussi. Il me semble qu'en histoire aujourd'hui, entre l'histoire environnementale et l'engagement d'ailleurs de certains historiens, il y a quelque chose qui s'ouvre de très intéressant. Enfin, on est toujours à se dire, tiens, avec quelle discipline on échange ? Eh bien, probablement avec l'histoire aujourd'hui. J'aurais aussi envie de relier ce que vous avez pu dire tous les deux avec des propos comme ceux de Patrick Boucheron dans Le Monde ce week-end, un grand entretien entretien qui nous parle de son inquiétude d'historien et qui nous parle à un moment donné de son travail comme une gymnastique de l'inquiétude, avec l'enjeu également de tester de nouvelles configurations du public, on voit qu'on est quand même loin de ce qu'a été pendant très longtemps la discipline histoire. Et que du coup, il me semble qu'il entre aussi possiblement en résonance avec ce que vous dites. Une pensée qui me vient, c'est aussi en écho à ce qu'évoquait Jean-Paul Thibault hier. Je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose. Jean-Paul disait et ramenait à Lévinas hier soir à propos de la sensibilité. Et Jean-Paul nous dit finalement, chez Lévinas, tu me dis, hein, Jean-Paul, hein, si je traduis, trahis ce que tu évoquais hier, la sensibilité procède d'une topique de l'exposition et de l'inspiration plutôt que de la représentation et de la narration. Alors, je ne cherche pas à faire du débat forcé, là, du coup, mais je ne sais pas si ce qu'évoque Lévinas, en fait, hein, via Jean-Paul, vous trouble, puisque vous insistez beaucoup sur la représentation, sur les habitats narratifs également. C'est des choses que tu as traitées dans ton dernier ouvrage, Camille. Donc, voilà, est-ce que ça résonne ? Et puis l'autre question que j'avais, puis ensuite je vais me promener avec un micro, donc, c'était cette question de tester, chercher des dispositifs, et donc cette notion de service public de l'imaginaire. Moi, j'avais envie que vous y reveniez un petit peu l'un ou l'autre, hein, et puis vous faites comme bon vous semble, c'est peut-être non pertinent, mais peut-être ces deux questions. Donc représentation, narration versus, entre guillemets... j'ai oublié tout à coup Lévinas, mais expression, et, enfin, oui, pardon. Et puis service public de l'imaginaire, j'ai l'impression que ça pouvait être intéressant. Je vous écoute, et puis en même temps, donc, préparez vos questions, et je vais circuler donc, dans cet amphi pour ne pas trop déborder.
Alors déjà je vais peut-être répondre à la deuxième finalement. Après je pense que en effet ce qui reste peut-être de la mission qu'on avait en tant qu'architecte paysagiste, c'est un peu la question. Enfin moi ce qui m'intéressait là-dedans, c'est l'espace public, et donc la question quelque part, si on le traduit peut-être sur des modes de gouvernance ou autre chose, du service public. Et je pense que c'est la carte comme étant un endroit pour donner à entendre des voix mises en sourdine ou des voix impensées ou des voix qui ne sont pas autour de la table. C'est un peu cette façon qu'on aurait d'interpréter un service, en tout cas un endroit où le dialogue est possible autour de la reconstruction des imaginaires et d'un chantier du regard, en fait. Et que finalement, sans présager de la forme que donnerait cette expérience, l'expérience ouvre des possibles en termes de, justement, d'imaginaire hybride, reconstruit, fragmentaire, qui pourrait nourrir cette espèce de service public hypothétique. Et après, peut-être que je te laisse rebondir, mais sur la question de la représentation, traduction, peut-être que pour l'instant, on utilise aussi ces termes de manière presque un peu générique. C'est-à-dire que finalement, c'est par l'expérience de la transformation de notre rôle de cartographe à travers tous ces ateliers, à travers ces enquêtes, qu'on est en train, a posteriori, d'analyser quel rôle on avait exactement. Est-ce qu'on était diplomates armés de dessin, par exemple ? Ou est-ce qu'on arrive à résoudre des conflits graphiquement ? Voilà, c'est un peu les questions qu'on se pose, avec, en effet, cette question de, par exemple, là, on peut dire que c'est une carte qui a un style et qui a un auteur, en fait, alors qu'on ne les avait pas pensés comme ça. Mais que évidemment, y a un effet de traduction et un effet de se saisir du trait et d'être dans d'être le traducteur, c'est aussi prendre part à la discussion. Et c'est là où il faut se dire qu'on assume cet endroit et qu'on se rend visible à cet endroit de la traduction. Et c'est peut-être une façon de trahir moins. en tout cas, de montrer qu'on est le traducteur et qu'on a fait cette transformation, cette translation avec ce qu'on est aussi et une parole située.
C'est certain, d'ailleurs, c'est ce combat auquel on avait beaucoup participé pour que les noms des traducteurs apparaissent. C'est qu'effectivement, quand l'auteur, l'autrice de la traduction est mentionnée, il y a quelque chose qui rappelle au point de vue une certaine subjectivité. Je voulais juste revenir, c'est intéressant, je ne sais pas pourquoi surgit tout d'un coup le nom de Lévinas, mais sans doute qu'il faut qu'il surgisse régulièrement. Donc deux petites choses qui m'ont, au fil des années, des dernières années, intéressé. Et puis j'ai participé à des discussions, notamment sur la question de... sur les lignes de faille entre l'éco-judaïsme et l'éco-christianisme, parce qu'en fait, il y a un enjeu là très fort qui ta phrase m'y a fait penser, c'est que et en fait, c'est une discussion que j'avais eue, Frédéric en est témoin, puisque c'était en Marseille en 2016, et on a une discussion avec Bruno Latour sur que pense-t-il du livre de David Abraham qui s'appelle « Comment la Terre s'est tue ?» avec un chapitre merveilleux sur la manière dont les alphabets et les idéogrammes ont progressivement effacé les silhouettes du monde. Donc si vous prenez un système idéogrammatique, il y a encore des formes, il y a un œil dans le cas des idéogrammes égyptiens. Et puis il voit que progressivement il y a une montée en abstraction de l'encodage. C'est là que naît aussi chez moi la notion d'encodage. C'est que nous sommes une espèce narrante, nous sommes une espèce qui encodons. Et quand nous encodons, quelque chose s'efface de l'affect, de la sensibilité et du corps, de la vie. Et donc, ça. Et je disais pourquoi j'aimais ce texte de David Abraham et Bruno Latour, qui, comme vous savez, est plutôt du côté de l'éco-christianisme, puisqu'il a quand même fait un certain nombre de coming out sur sa question depuis cette tradition-là, avec Face à Gaïa et son travail à la chaire des Bernardins. Travail par ailleurs passionnant, où il a essayé de mobiliser la théologie dans cette question du changement des cosmogonies. Mais là, ce jour-là, j'ai vu qu'effectivement, il y avait une ligne. Et il y avait une ligne qui séparait. Et je suis souvent, moi, effectivement, quand je lis une littérature dans nos mondes dites éco-critiques, où il y a parfois cette trop grande foi dans le langage. Dans l'éco-judaïsme, puisque c'est un courant assez puissant aujourd'hui, très peu connu en France, hélas, mais très fort aux États-Unis, il n'y a pas seulement évidemment la reprise du Shabbat, c'est-à-dire la notion de repos, de cessation, comme on a vu au moment du Covid, la Terre va mieux quand on cesse, quand on arrête. Mais aussi des questions qui viennent très souvent aux origines de l'éco-judaïsme sur la notion d'Adama et d'Adam. En fait, c'est que nous sommes des glébeux, comme disait Chouinki. Donc nous sommes faits de cette matière terrestre, nous n'en sommes pas séparés. Et que c'est le langage qui sépare. Et donc il y a cette cassure très forte entre le langage. C'est pour ça que tout fondamentalisme aussi issu de cette tradition-là se trompe. C'est que la carte n'est jamais le territoire. Les mots ne sont jamais la chose même, et c'est ce que savent les traducteurs très bien. Ça flotte, il y a du jeu, ce jeu est devenu tragique, il est devenu à la vie, à la mort, mais il y a du jeu. Et c'est dans ce jeu que ça se joue, d'une certaine façon. Et donc c'est là, je crois, qu'il y a cette nécessité de reprendre la discussion sur les mots, sur le rapport entre le langage et le monde, ce qui était l'objet de mon travail de doctorat et aujourd'hui du livre « Une histoire du vertige ». Deuxième chose sur Lévinas, et c'est très intéressant de ce point de vue-là aussi, c'est que Lévinas a opéré quelque chose, c'est qu'il sauve l'éthique à la suite d'une ruine historique majeure. Tu parlais de vivre à l'intérieur des ruines, ce sont aussi ces ruines-là, les ruines de l'histoire, les ruines du progrès, les ruines qui sont déjà dans l'ange de l'histoire chez Benjamin, mais là, il y a les ruines, évidemment, qui servent de socle à la pensée et à l'éthique de Lévinas, et c'est une interprétation aujourd'hui qui fait jour dans les différentes traditions de commentaires qui reprennent Lévinas en disant celles et ceux qui ont enfermé l'éthique de Lévinas autour du respect du visage de l'autre humain, se sont en quelque sorte trompés, puisqu'on peut entendre l'idée de face, et en hébreu, l'idée de face, on parle souvent de face de la terre, c'est qu'en fait, il faut aussi considérer que dans cette éthique, donc il rouvre, si vous voyez, l'éthique de Lévinas en sortant du petit cercle des humains, et en disant, en fait, nous pouvons aussi nous en servir pour considérer et respecter la face de la Terre, ce à quoi nous faisons face. Et c'est aussi là, en discussion, dans les petits cercles de commentaires du Talmud et autres, c'est que je vois ça de l'intérieur de cette tradition de l'éco-judaïsme. Je ne pensais pas parler d'éco-judaïsme aujourd'hui, mais en tout cas, voilà, ce sont des surprises. Quant au service, public de l'imaginaire, oui, en fait, ça, c'est juste le terme que j'ai proposé. Pourquoi ? Parce que d'abord, dans mes projets, j'essaie d'avoir des fonds publics, ce qui est dans l'art pas toujours le cas aujourd'hui, puisque les fonds viennent souvent de fondations privées, etc. Or, j'essaie de maintenir, de m'appuyer sur des fonds publics, ce qui crée une ligne. Ce n'est pas tout à fait le même art qu'on propose, et ce n'est pas tout à fait la même éthique dans les récits, c'est-à-dire qui je sers, puisque au fond, quand même, qui met l'argent, c'est toujours en fait, dis-moi quel est ton maître, je te dirai d'où tu parles. Et c'est pour ça d'ailleurs pour moi la question de la représentation des entités de la nature est en quelque sorte réglée, mais si vous voulez on en parlera. Mais c'est que si la rivière m'emploie, alors je peux être la rivière. Si c'est Total qui m'emploie, et nous savons à quel point les gens qui sont employés par Total peuvent être, non pas des êtres humains, mais Total, c'est que, ou si je suis employé par l'État français, je ne suis pas au même lieu de parole et d'énonciation. Donc c'est pour ça qu'il est pour moi urgent que nous ayons pour, en quelque sorte, entité employeuse, la Terre elle-même. Parce qu'alors nous aurons cette focalisation, disons, possible. Je ne dis pas qu'elle sera parfaite, mais je dis qu'elle sera possible. Et donc, voilà, donc c'est... je m'appuie sur des outils publics et donc j'essaye de mettre cette recherche, action, art, science, citoyenneté et ces nouveaux récits. Et la grande question dans le projet vers une internationale des rivières, une question adjacente mais qui est pour moi très importante, c'est qu'est-ce qui fait que nous acceptons des transformations et qu'est-ce qui fait que nous les refusons ? Donc dans la question des droits de la nature, je me suis confronté à beaucoup de gens dans des salles assez pleines. Il y avait d'ailleurs Bruno, une fois, qui disait « Mais comment la rivière n'est pas un sujet ? Qu'est-ce que c'est que cette position ?» Parfois, nous traitant de post-humaniste, de transhumaniste, je ne sais quel autre nom d'oiseau. Et donc, la question qui grandit en moi, c'est qu'est-ce qui fait que nos catégories de pensée et nos corps se mettent en résistance ou en opposition et qu'est-ce qui fait que nous, au contraire, nous accueillons quelque chose qui veut advenir et qui se transforme, qui était déjà aussi la question dans les potentiels du temps.
Merci beaucoup. Alors, quelques minutes courtes, mais questions. Et puis, on peut circuler avec Rachel.
Tu as un micro ?
Merci. Merci beaucoup. Voilà, moi, je me pose la question, en fait, de la traduction. C'est-à-dire, toutes ces expériences de pensée, de mutation, de transformation, de négociation des concepts, hein, de fabrication de récits, je voulais savoir si vous aviez... enquêter sur les conséquences du point de vue des pratiques ordinaires. En d'autres termes, qu'est-ce que ça fait de ce renversement de perspective, ce travail de présenter autrement, qu'est-ce que ça fait si je suis un pêcheur, un agriculteur, un habitant des cités, etc. C'est-à-dire, voilà, ma question est aussi un peu, enfin, je la pose aussi à Toledo que j'ai lu et que j'aime beaucoup, est-ce que ce n'est pas trop accordé d'importance au langage, à la narration, aux anthologies, et peut-être ce focus en fait sur les narrations, les récits, les anthologies obstrue, la perspective du vécu, de l'expérience. C'est vrai que j'ai lu Tim Ingold et bon, il y a tout un débat, enfin, que je ne vais pas reprendre entre Tim Ingold et Descola. Mais bon, voilà. Qu'est-ce que ça fait du point de vue de l'ordinaire sur les acteurs sociaux, sur les gens ? Et puis peut-être une autre petite question, alors c'est comment représenter des choses qui ne sont pas présentables par la carte, mais on y reviendra peut-être par la suite, l'océan. L'océan.
Peut-être qu'on peut prendre une ou deux questions supplémentaires.
Oui, mais alors je note, moi. C'est pas que je n'ai pas assez travaillé dans les restaurants pour mémoriser des
codes. Alors est-ce que...
Non, mais peut-être pas. En fait, c'est une invitation à accumuler les questions, mais peut-être que vous notez pour rien. Eh bien, pas tout de suite, alors... Noter, ça permet de commencer à répondre, je pense. Alors, allez-y.
Alors, je vais commencer par la toute première, qui était qu'est-ce que ça fait sur l'ordinaire, ou en tout cas, qu'est-ce que ça peut avoir comme effet. Après, il n'y a pas eu une enquête spécifique, mais ça serait intéressant de voir justement les effets, même plus long-termistes, de ce que enfin, qu'est-ce que ça a fait, est-ce que ça a été transformateur ou pas, en fait. Et je pense qu'il y a autant de réponses que de gens qui ont participé. C'est-à-dire qu'à des endroits, il y a eu des effets de visualisation qui ont permis des prises de conscience sur des pratiques. Ça a pu être noté, enfin, il y a eu des témoignages sur ça. À d'autres endroits, ça a été d'utiliser des tout petits morceaux d'outils dans sa pratique, que ce soit la pratique de conception ou d'autres pratiques. Donc en fait, il y a eu plein d'effets transformateurs qui sont à différents degrés, soit d'outils, soit de nouvelles perspectives, soit d'idées seulement. Et en effet, après, chacun... Il y avait aussi l'idée que c'était une sorte de dissémination et qu'il y avait une liberté de sortir de ça comme si c'était rien passé, ou justement de s'en saisir et de continuer. Donc ça, c'est des perspectives assez libres. Et sur juste la dernière, en fait, peut-être j'ai fait un saut, mais sur la représentation de la mer, c'est intéressant. C'est à chaque sujet, le modèle cartographique est un peu repensé. C'est-à-dire que même quand il s'agissait de parler des sols avec les géochimistes, finalement, ils n'ont parlé que d'eau. Et donc la perspective de dessiner une rivière à partir de cette lentille a un peu changé le prototype, c'est-à-dire qu'il a fallu quand même... Enfin, est-ce qu'on garde l'amont Laval? Est-ce qu'on garde cette question de la temporalité, de la circulation de l'eau? Et comme on l'a vu très très rapidement dans une des images, et ben, en fait, ça a commencé à modifier le modèle, et ça serait pareil pour la mer, c'est-à-dire que l'idée, c'est de pouvoir justement adapter ces lentilles à différents sujets, et pourquoi pas un espace aussi... difficile à représenter que l'espace liquide.
Je pense que... Merci. Je pense que vous avez raison. On est tous un peu le fruit de là où on pense. Et donc, il y a cette importance chez moi qui est donnée à la question des narrations, du langage, de la fiction. J'ai commencé en disant que j'étais passé par un certain nombre d'études qui nous apprennent notamment les fictions du droit. Et après, je pensais à cette question, je me disais, je pense que vous avez raison, il y a une trop grande importance qui est donnée, et c'est pour ça d'ailleurs que dans le processus Parlement de Loire, et c'est pour ça que je parle de la question des métamorphoses, c'est que je m'intéresse tout autant à ce qui résiste qu'à ce qui propose, et c'est pour ça que j'utilise l'espace de la fiction, qui est un espace non violent, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des propositions qui sont faites. Mais j'ai toujours conscience qu'à la fin, ce sera, disons, au souverain, si on doit par exemple changer les lois, de décider. Donc c'est vraiment ce travail de suggestion, de proposition. Après, j'ai le sentiment que si moi je m'engage dans ces narrations instituantes, dans ces narrations de métamorphose, en proposant d'autres focales, d'autres narrations, c'est que nous avons un problème. Et notamment, on a un problème de brutalisation générale des cadres qui nous gouvernent. Je prends un exemple. En écoutant votre question, je me disais, je repensais à ce moment, à la fin du 19e siècle, où le droit a décidé de donner des droits à des entreprises. La question était de savoir si une entreprise, c'est-à-dire des quotités d'argent, c'est-à-dire du capital, avait des droits. Et il y avait des juristes qui disaient non, on ne peut pas donner des droits à du capital parce que il n'y a que les sujets qui ont des droits. Et donc c'était les sujets humains. En l'occurrence, à la fin du 19e, en plus, c'était surtout des sujets masculins de l'histoire. Et à la fin du 19e, encore certains sujets masculins de l'histoire dans une certaine région du monde. Donc les choses sont complexes, mais en tout cas, on aurait pu s'en tenir à seuls les sujets humains, c'est-à-dire les personnes physiques, ont des droits. Ils ont donné des droits à des sommes d'argent, et nous sommes en quelque sorte quotidiennement les soumis, en fait, à cette brutalité des cadres et des représentations. Et donc évidemment, l'enjeu, quand on travaille à des transformations et des métamorphoses, c'est d'avoir un monde à plus de voix, qui écoute plus d'entités, plus de focales, et qui permet de cohabiter avec un plus grand nombre de pratiques, de gestes. Donc il s'agit d'ajouter en fait des points de vue plutôt que de brutaliser à nouveau. Très souvent, quand on met en avant ce genre d'agenda, si par exemple je dis je suis pour les droits de la nature et je suis pour donner des droits aux rivières, je prends un exemple très concret, et qu'on me demande que veut la rivière, je vais dire ce qu'elle veut, c'est le démontage de toutes les infrastructures, c'est-à-dire être libre dans son corps pour s'étendre là où elle veut, là où elle peut. Et avec, c'est pour ça que d'ailleurs la Loire est un fleuve intéressant, parce que justement il a encore des capacités d'étiage et de crue. Et donc un souffle, on parle, hein. En ligérien, on parle de souffle. Donc là, immédiatement, on va me dire, ça c'est brutal, parce que ça veut dire que des villes vont être inondées, ça veut dire que des maisons vont être détruites, ça veut dire que des agriculteurs qui utilisent les nappes ne vont plus pouvoir forcément les utiliser. Et toujours ce que je rappelle, c'est à la fin, c'est pas parce que je donne des droits et ces droits-là à la rivière, en disant qu'elle veut ce démontage, que la rivière va l'obtenir, précisément parce que nous sommes dans des sociétés pluralistes et que donc la rivière va pouvoir aller demander le respect de ses droits en justice, mais elle sera face à des intérêts contradictoires. Et donc, il y aura une décision qui sera une décision sociale ou une décision judiciaire ou une décision politique avec un certain nombre d'arbitrages. Mais vraiment, en lecteur de Montesquieu, parfois j'en reviens à des choses très modérées. Ce que je me dis, c'est que nous avons, en tant qu'humains, collectivement intérêt à construire un jeu social où des formes autres de vie puissent nous dire non. Et en fait, c'est l'intensité de ce nom que j'essaye de construire de la même manière que l'histoire des contre-pouvoirs. Il doit pouvoir y avoir de meilleurs contre-pouvoirs pour que des espaces non humains puissent, par exemple, avoir du temps pour se régénérer. Et je pense qu'on a intérêt à le faire, non seulement pour l'habitabilité de la Terre, mais on a intérêt à le faire pour l'équilibre, en fait, et pour la vie des générations futures. Et c'est pour ça qu'en droit, par exemple, c'est une chose que je suis avec grand intérêt, Dominique Bourg en parle souvent, c'est qu'on pense non seulement à donner des droits à des entités non humaines, mais on pense aussi donner des droits aux générations futures. Ça a été le cas dans la jurisprudence d'Atrato en Colombie. C'est qu'ils ont gagné leur procès pour la rivière au nom des générations futures. Et c'est intéressant comme piste parce que tout d'un coup, ça fait rentrer des logiques du temps long. Et je pense que c'est une de nos questions, en fait. C'est comment est-ce qu'on crée de l'opposabilité depuis des temps autres, qui ne sont pas les temps ni du développement, ni de la croissance telle qu'elle est définie dans nos sociétés, etc. Donc c'est ce jeu d'acteurs plus vaste, plus complet, que je pense, s'il est souhaitable, en tout cas j'y travaille, de penser, de construire, etc. Mais je suis d'accord que très souvent, dans la rhétorique, ça arrive et ça survient comme une forme de brutalité. Ce que ça n'est pas, pour moi, c'est du pluralisme intelligent. C'est plus de points de vue.
Merci pour ce retour. Y a-t-il une incontournable question qui, si elle n'est pas posée, vous laisserait fâché ? Auquel cas, on rejoindrait une forme de brutalisation qui est un contrepoint. Et je trouve que ce que vient de dire Camille... nous fait rejoindre les pourparlers de Gilles Deleuze, par exemple, me semble-t-il. En tout cas, je ne sais pas si c'est le cas. Alors, Éric, là-haut, j'arrive avec le micro, et puis ensuite, on conclura la matinée.
Non, il n'y a pas de questions. Merci. Oui, merci pour cette présentation. Je voulais savoir comment, dans le modèle de Bruno Latour, qui semble assez unanime, vous introduisez les questions de négativité. Vous avez parlé de total. Voilà, il y a des questions d'usage de l'économie, par exemple. Comment est-ce qu'on peut traduire, parler, communiquer dans ces conditions-là? Voilà. Et aussi une autre question territoriale sur le... Comment dire? Peut-être une distinction entre la perception des villes du modèle latourien et la perception des campagnes aujourd'hui. C'est-à-dire où se trouve la nature. Moi, je l'appelle la campagne, mais enfin, voilà. Donc, comment on travaille le dissensus, comment on travaille la négativité du monde avec le modèle latourien?
Merci. Je peux, mais par contre, le déjeuner va être un peu retardé.
Alors, merci. Attention. Hein, quand même.
Et je peux dire au passage, je peux dire que je suis lecteur de vos livres et que j'aime beaucoup vos livres. Tu vas? J'y vais? Alors, je sais en plus que c'est quelque chose qui lui a été reproché, et je pense qu'on a eu raison. Vers une internationale des rivières, le projet que je mène à Nantes, est notamment une manière de penser, en tout cas, de la négativité, pas forcément de l'invisible, pas forcément de l'absence, et pas forcément de l'irréparable, même si moi, ces trois dimensions sont très importantes dans mon travail, la question de la spectralité, des fantômes, etc. Mais là, je vais m'en tenir juste à une forme d'agone, d'opposition. Et c'est la proposition, en tout cas, que je vais faire là, au fil de ces trois ans, c'est de se demander, donc, si on considère qu'il y a des corps travailleurs non humains, qu'est-ce qu'ils veulent et quelle serait cette forme de lutte, y compris pour un droit social du travail d'une entité telle qu'une rivière. Donc, je pense que là, j'ai parlé de pluralisme, mais en fait, les combats sont âpres, et c'est sans doute, et c'est régulièrement une petite pierre d'achoppement que j'avais avec Bruno, c'est que quand on se présente devant une assemblée et qu'on propose de changer les cadres, on va forcément porter une parole qui dit « dans ce cadre, il y aura plus d'alliances et de conflits possibles, donc il y aura plus de monde ». Mais dans une autre forme de parole, de lieu d'énonciation, je vais dire « oui, la perspective est brutale. S'il y a le surgissement d'une perspective rivière ou bassin versant, très clairement, dans le cadre des méga-bassines, et c'est des discussions qu'on avait eues, et puisqu'on est à Nantes, on n'est pas très loin de la ZAD, de Notre-Dame, c'est qu'au fil de Parlement de Loire, on a eu beaucoup de gens qui nous disaient « vous ne pensez pas assez le conflit présent, etc. » Si, on aimerait changer le cadre pour que justement le conflit présent puisse... trouver des résolutions qui soient favorables, mettons, à la rivière. Et donc, dans le cas des méga-bassines, par exemple, si la rivière a une puissance d'agir reconnue en droit et qu'elle peut aller devant les tribunaux, je pense que c'est un procès comme Christopher Stone pensait aussi que si le séquoia, qui a une durée de vie, disons, moyenne de 2000 ans, serait aussi plus fort s'il pouvait agir en justice, c'est une focale qui est plus forte, qui est symboliquement plus forte et qui est plus agissante si on a la rivière que si on a un regroupement d'associations fragiles financièrement et qui... voilà. Donc, ça pense le conflit, mais ça pense aussi la résolution du conflit. Donc, il y a... Enfin, quand je disais dire non et travailler sur la possibilité qu'on puisse dire non depuis d'autres formes de vie, c'est ça. C'est précisément cette pensée de la négativité. Là, pour l'instant, je travaille au changement du théâtre du conflit, mais après, c'est pour qu'il y ait conflit. Et après, ce que je dis ici, c'est qu'on a intérêt à ce que ce conflit ait lieu et que des entités non humaines puissent, à un moment donné, nous dire non. Donc ça, c'est vraiment la négativité. Après, il me semble que votre question pose vraiment un défi qui est plus de l'ordre d'une discussion de philosophie et d'ontologie et autres, dans laquelle habituellement je ne rentre pas, c'est... Votre modèle, ça construit de la pure nature. Or, la pure nature n'existe pas. C'est-à-dire une nature sans nous, sans notre espèce. Puisque si on dit, en fait, et quand vous lisez, je voulais venir avec une charte d'une rivière, mais quand vous lisez la charte des droits d'une rivière, qui est au fond l'habit textuel de ce que veut la rivière, c'est un habit textuel qui construit une altérité pure, où il n'y a pas l'anthropisation, où il n'y a pas les levées de Loire, dont on a le sentiment qu'elles sont naturelles, mais en fait, elles sont le fruit de travaux d'aménagement depuis de très longs siècles, etc. Donc, ce que je vais dire là, à cet endroit-là, c'est nous avons intérêt à construire juridiquement ce conflit parce qu'il existe. Nous le construisons, comme toujours, en traduisant mal, de telle manière que quelque chose puisse s'opposer à nous. Donc là, on retrouve cette négativité, tout en sachant que lorsque la rivière surgit pour nous dire non, le corps qui parle est un corps qui est lui-même totalement hybride, voire cyborg, et anthropisé. C'est-à-dire que je crois que c'est 40% du débit de la Garonne qui est géré par les humains. Donc en fait, il n'y a plus rien de naturel. Mais par contre, dans notre jeu social étendu, et c'est ça l'anthropocène, c'est le moment où tout d'un coup il y a une entrée sur scène d'un certain nombre d'entités non humaines qui nous disent que ça ne va pas. Dans ce jeu social étendu, on a intérêt à construire ces points de vue pour qu'on les entende, pour qu'on les voit, et accessoirement pour qu'à un moment donné, ils puissent stopper notre manie aménageuse. Je vais le dire autrement, c'est qu'on sait que l'acteur public, depuis 30-40 ans de libéralisation, est un acteur au moins ambigu. Et les gens du Conseil d'État, avec qui parfois j'ai discuté avec donc aussi celui qui est à l'origine de la jurisprudence de l'ERICA, donc sur la loi sur le préjudice écologique, qui s'appelle Laurent Néret, qui est plutôt opposé à la question de la personnalité juridique des entités de la nature. Et on commentait sur qu'est-ce que c'est l'intérêt général. Et il disait, dans la jurisprudence constante du Conseil d'État, l'intérêt général, en fait, donne d'une certaine façon toujours raison aux intérêts humains. Donc l'intérêt des communs naturels perd. Mais on peut prendre la situation d'un élu, quoi. Un élu qui doit se dire, si je donne 2000 emplois, je choisis quoi ? L'installation d'un hangar Amazon ? Où je respecte les règles de l'environnement. En fait, ça s'est présenté à Tours. Ils ont choisi le hangar Amazon et ils vont construire une liaison et un pont supplémentaire. Ils vont donc... Et il y a une ZAD, d'ailleurs, qui s'était constituée pour s'opposer à ça. Donc, quand les ZADIS disent « nous sommes la nature qui se défend », eux-mêmes, en fait, s'hybrident humainement pour dire « je ne suis plus tellement un corps représentant d'intérêt humain, je suis le représentant d'intérêt non humain ». Donc, le fait que les construits purifient et découpent le monde de manière erronée ne dit rien du fait qu'à l'intérieur de la représentation et du jeu d'acteurs, il y ait des corps hybrides. Un avocat qui se bat pour que 30% des océans soient sanctifiés, le mot est mal choisi, mais la sanctifier, c'est la, ne soit plus exploité, ben en fait, on a des avocats qui sont du côté du pur océan, en sachant qu'il n'y a pas de pur. Donc c'est un peu ça qui est... Voilà, j'espère que ça répondait, parce que souvent, les questions, on est à côté. Ou, donc voilà, j'essaye de voilà. Je ne sais pas si ça répondait exactement, mais en tout cas, tous mes remerciements pour vos livres.
Merci. Je vous propose qu'on en reste là et qu'on garde en tête le jeu social étendu. Vous remerciez beaucoup pour cet échange. Merci.